Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Écoutez Dutrisac, Cube Radio.
Il y a un article dans la presse que vous devez lire qui affirme que la situation dans les urgences, dans le système de santé, ça va mal, ça empire de jour en jour. On a avec nous le docteur Germain Poirier, qui est chef du service des soins intensifs de l'hôpital Charles-Lemoyne et président de la Société des intensivistes du Québec. Docteur Poirier, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Dutrisac.
Allons-y tout de suite, là, dans l'article, là, on vous cite et vous dites, je n'ai jamais vu le réseau en aussi mauvais état. Expliquez-nous en détail ce que vous vivez et ce que vous voyez.
Ben, dans le fond, on est confronté actuellement à un manque de ressources humaines. Hein. On a beaucoup de personnes qui ne sont plus ciblées sur les étages et aux soins intensifs et à l'urgence. On a beaucoup d'infirmières, d'infirmiers manquants. Et je vous dirais actuellement, le gros problème, le nerf de la guerre, et surtout à ce niveau-là, c'est qu'on manque de personnel pour faire rouler les hôpitaux, là, si vous voulez, à 100% de leur capacité.
Je lisais, Dr Poirier, des lits en moins aux soins intensifs, des ambulances détournées, c'est dans l'article de la presse, des opérations cardiaques reportées. On parle aussi d'accouchements en Montérégie. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille la situation et qui se dit là, il faut y remédier?
Ben, écoutez, oui, il y a le ministère qui est là, il y a tous les acteurs du réseau, mais il est certain qu'il y a tellement, si vous voulez, de choses imprévisibles que d'une journée à l'autre, le système est en constant mouvement. Il y a des journées où on va être très, très bien, si vous voulez, staffé, si on, excusez-moi l'expression, avec de la main-d'œuvre, et le lendemain, il va manquer peut-être 50% de main-d'œuvre. Donc, c'est très, très difficile de faire une planification au jour le jour avec des mouvements de personnel comme ça. Ouais. Et puis, les gens s'arrachent les cheveux, là, les gestionnaires. Moi, je fais de la co-gestion médicale aussi, administrative. Tout le monde s'arrache les cheveux.
Là, je lisais que cet été, Dr Poirier, chez vous, là, il y a un étage qui est resté fermé complètement à Charles-Lemoyne tout l'été.
Oui, oui. Dans plusieurs hôpitaux au Québec, il y a eu des étages qui ont fermé par manque de personnel pour aussi accommoder les vacances. Parce qu'il faut comprendre quand même que le personnel qui travaille a le droit aussi à quelques semaines, ou à quelques jours de vacances. Fait que ça rentre dans l'équation. Et malheureusement, ben oui, effectivement, le bas blesse. Mais il y avait des lits qu'on a dû cet été tout à fait fermés de par manque de main-d'œuvre.
Là, on parle de pénurie d'infirmières, vous l'avez mentionné. Puis en même temps, Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, dit le ratio d'infirmières au Québec est de 762 par 100 000 habitants et c'est 609 par 100 000 habitants en Ontario. Puis c'est même au Québec mieux que dans le reste du Canada. Alors, les infirmières veulent pas travailler dans le système public?
Ben écoutez, j'ai pas vérifié les chiffres du docteur Barrette et docteur Hébert non plus, mais il est certain qu'il y a beaucoup d'infirmières, ben pas beaucoup, mais il y a quelques infirmières, il y a un certain pourcentage qui travaillent dans le réseau privé. Il y a des infirmières qui ont complètement arrêté leur pratique pour différentes raisons, des raisons de santé. Il y a des gens qui ont quitté le navire et qui ont réorienté leur carrière à 180 degrés complètement. Donc, oui, sur papier, il y a peut-être un nombre d'infirmières suffisant, mais ils ne sont pas dans le réseau public. Et c'est là qu'on voit le problème.
On dit qu'il y a plus de 11 000 infirmières qui travaillent hors du réseau public de santé. Est-ce qu'on les oblige à venir travailler dans le public? Parce qu'on a, tu sais, en même temps, là, moi, ça fait longtemps, je dis la même affaire. On a payé collectivement pour la formation des médecins, pour la formation des infirmières. Et là, tout à coup, y en a parmi vous, parmi les infirmières, qui se tournent vers le privé, puis qui abandonnent leur mission de soigner les gens.
Ben, tout à fait. Puis ça, vous avez raison. Je pense que c'est partagé par la majorité des gens dans le réseau. Fait, des agences, en engageant des infirmiers, des infirmières venant des agences, c'est sûr qu'on entretient un peu le problème. Mais ce que le ministère, justement, essaie de faire actuellement, c'est d'arriver peut-être, et on verra ça jeudi avec la loi du ministre Dubé, mais ouais. Il serait possible éventuellement peut-être d'abolir ou de changer la vocation des agences et peut-être de renflouer le réseau avec des infirmières qui auparavant étaient dans les agences et qu'à ce moment-là, ben c'est des gens qui peuvent gérer leur temps comme ils veulent et c'est pas ça qu'on veut. Là.
Docteur Poirier, parce que là, on parle d'agences, expliquez aux gens qui nous écoutent ce que ça signifie, comment ça, on travaille dans les agences et comment ça vient faire des ponctions dans le système public.
Ben dans le fond, une agence est un regroupement, c'est une firme là qui vont, si vous voulez, employer des infirmières et qui vont, si vous voulez, dispatcher ces infirmières là dans différents hôpitaux. Alors, ce ne sont pas des employés d'hôpital, ce sont des travailleurs autonomes et qui peuvent gérer leur horaire comme ils veulent. Le salaire est différent parce que bon, les bénéfices marginaux sont différents aussi, mais il reste que ce ne sont pas des employés du système public. Et à ce moment-là, ben, les hôpitaux doivent faire appel à cette main-d'œuvre-là lorsqu'il manque d'infirmières dans le réseau.
Il y a aussi le problème des gens, là, puis c'est mentionné dans l'article, des gens qui se présentent à l'urgence, puis on donne l'exemple de Saint-Jérôme, où la moitié des patients quittent les urgences sans avoir vu un médecin. C'est quand même grave, ça. Comment se fait qu'il n'y a pas de médecin dans les urgences en tout temps, Dr Poirier?
Ben il y a des médecins sur ça, je veux dire, il y a des médecins 24 heures par jour dans tous les hôpitaux. Ça, c'est une loi provinciale. Là. Une salle d'urgence doit avoir au moins un urgentologue ou un urgentiste dans sa salle. Maintenant, il peut s'avérer que quelquefois, si le surplus de patients, si tout le monde décide de débarquer comme on voit le dimanche soir à 6 heures, ben c'est sûr que même s'il y a 2-3 médecins puis il y a un autobus qui arrive, ben les gens peuvent seulement voir un patient à la fois là. Donc effectivement, il y a des choses qu'on peut planifier puis il y a des choses qu'on ne peut pas planifier dans l'équation. Donc il peut s'avérer comme vous le dites qu'il y a des gens qui peuvent être qui ne peuvent pas être vus dans des temps qu'on pourrait penser si vous voulez favorables, mais ça c'est toujours assez aléatoire de dire d'un hôpital à l'autre.
OK, j'ai une question niaiseuse pour vous là. Pour vous distraire un peu là quand même. La salle d'urgence est pleine. On voit que la salle d'urgence est pleine. Comment se fait qu'on n'est pas capable d'appeler des médecins en renfort pour vider la salle d'urgence? Les gens vont quand même pas là pour se distraire.
Non, ça, vous avez raison. Mais tu sais, il faut comprendre que tout le monde, je sais pas, on va faire un exemple, les gens travaillent, je sais pas combien de chiffres, les urgentologues, ils vont faire, je sais pas trop, 16, 20 chiffres sur 2-3 semaines. Mais c'est sûr que si c'est pas leur journée où ils sont disponibles, ben cette journée-là, il y en a qui font du bureau, il y en a qui sont ailleurs, qui sont sur des comités au ministère, il y en a qui ont d'autres tâches d'enseignement. Donc, c'est pas aussi facile. Il y a pas une banque de rappel où on peut tout de suite à appeler et dire « venez-vous-en ». Les gens ont quand même d'autres choses aussi de situer les journées où ils sont pas nécessairement à la salle d'urgence. Ça veut pas dire qu'ils sont à la maison en train de faire du yoga puis du macramé. Là.
Non, je comprends ça, mais en même temps, nous autres, on est là à la salle d'urgence, là, puis ça avance pas. Puis ils appellent pas le monde. Puis, tu sais, là, ils font patienter avec le triage, puis ils te retournent dans la salle. C'est plus des farces, là, tu sais. Puis nous non plus, les citoyens, on n'a pas juste ça à faire, tu sais, d'être là à l'urgence, puis de saigner ou d'attendre, tu sais, d'être vu par un médecin.
Oh non, tout à fait. Puis moi le premier, là, quand moi je vois l'urgence avec mes enfants, on est les premiers aussi des fois à décrier la situation. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est de changer un peu. On se le cachera pas. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'urgence qui pourraient aller dans des CLSC, dans des cliniques sans rendez-vous.
Ouais, ouais.
Mais malheureusement, avec les années, dans les années 70, on a dit ben là, quand vous êtes malade, allez aux urgences. Donc, les gens ont pris des mauvais plis.
Mais quand tu appelles le 8-1-1, là, tu sais, pour savoir ce qui se passe avec tes enfants, nous, on l'a vécu à la maison. La seule affaire qu'ils finissent par te dire, c'est aller à l'urgence. Mais il n'y a pas, puis effectivement, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas, tu sais, je comprends, il y a des gens qui se présentent à l'urgence inutilement, mais il y a, en même temps, où c'est que vous voulez qu'on aille, là? Les cliniques sont fermées.
Ah non, juste non. Je sais, écoutez, il y a pas de, y a, quand c'est fermé, c'est sûr qu'il faut aller à l'urgence. Ça, il y a pas de problème. Mais sinon, certain que sur semaine ou sur week-end, il y a d'autres choses qui sont ouvertes. Il faut essayer de voir si le problème est si important. Mais vous avez raison que le 8-1-1 aussi, les gens peuvent, selon la gravité, envoyer les gens aux urgences. Mais ça, c'est pas, je connais pas assez. Cette partie-là du réseau pour vous informer.
Oui. Là, en plus, là, vous devez gérer les réfractaires, les crinqués, les anti-vaccins qui débarquent chez vous. J'imagine que ça fait partie du problème. Là, il occupe des lits qu'on pourrait donner à d'autres personnes.
Oui, ben c'est certain qu'on est obligé là actuellement de traiter ces patients-là. Hein. Puis je vous dirais actuellement, 99% des gens avec la COVID dans les hôpitaux, ce sont des non-vaccinés. Donc, on est obligé de traiter ces patients-là comme n'importe qui, mais c'est certain que à chaque fois, on se demande pourquoi ils sont pas allés, parce que ça serait des lits disponibles pour d'autres personnes.
Ça doit être moins souffrant d'avoir deux petites injections que d'avoir des tuyaux dans le nez puis ailleurs.
Ben, vous avez plus de chances de mourir de la COVID et d'être intubé aux soins intensifs et de jamais ressortir de l'hôpital si vous n'êtes pas vacciné. Que si vous êtes vacciné, et si vous êtes vacciné, d'avoir des petits effets secondaires de la COVID, il n'y a rien là comparativement à décéder aux soins intensifs. Ça, mais c'est certain.
Là, si on revient là, à l'origine de notre entrevue, Dr Poirier, là, on parle, il n'y a plus de soins intensifs à Roberval, les pédiatrie à Sept-Îles voient pas de patients depuis des semaines. Je veux dire, c'est partout. Je parlais au maire de Sainte-Terre la semaine passée, en Abitibi, il ferme la bureaucratie là-bas, ferme l'urgence. Êtes-vous inquiet pour les citoyens? Êtes-vous inquiet pour la santé des gens au Québec?
Ben écoutez, inquiet, je pense que le réseau actuellement est quand même très, très accommodant, mais l'élastique commence à être très étiré en même temps.
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'on a des réseaux de transfert. Est-ce qu'on est inquiet? Je peux pas dire que je suis inquiet, mais je vous dirais pour le futur, avec le manque de main-d'œuvre, moi j'ai bien hâte de voir ce que le ministre Dubé a annoncé jeudi. Mais effectivement, dans certaines régions, ben, les pénuries peuvent se faire sentir, et puis c'est ce qu'on souhaite pas pour personne de la population.
Avez-vous l'impression, puis la question me vient là, parce que j'ai interviewé des ministres de la Santé, mais ils se pensent chacun et chacune le sauveur de service. Il l'a trouvé la solution. Il l'a trouvé le problème, puis son gouvernement va le régler, le problème de la santé, qui demande la moitié du budget total du Québec. C'est-tu moins ou c'est une impression qui est réelle?
Ben, c'est une bonne impression que les gens veulent faire, veulent changer le système, veulent essayer d'optimiser le système. Mais moi, je vais vous dire, pour aussi de temps en temps participer à certains forums avec le ministère, il n'y a pas de solution facile. Et même nous de l'interne, là, même nous de l'interne, je vous dirais, trouver des solutions, c'est vraiment pas évident. Puis être ministre de la Santé, je vous dirais, c'est probablement une des pires jobs actuellement au Québec.
Faudrait l'informer, M. Dubé, de ce que vous me dites là. Bon, non, c'est un méchant contrat, mais c'est un contrat qui existe depuis des décennies au Québec. Puis on a l'impression, Gaétan Barrette est arrivé en disant, moi j'ai la solution, on va créer des groupes de médecins familiales, des GMF, puis on va changer les affaires, puis on va obliger les médecins à être présents aux urgences. Puis là, tu sais, c'est comme tout le monde a de bonnes intentions, mais on dirait que c'est insolvable.
Oui, ben c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs dans l'équation qui changent et qui changent d'année après année. Et les prévisions sont pas toujours, je pense, que les gens pensaient. Et c'est pour ça que c'est tellement modulable que c'est un très gros casse-tête et c'est un gros paquebot, le système de la santé. Mais écoutez, je pense qu'il faut donner la chance aux coureurs, puis c'est ce qu'on fait nous aussi. On espère que à chaque ministre de la Santé, du sang neuf, ça fait pas tard de temps en temps d'avoir un œil externe non plus.
Comment ça se passe là, à l'hôpital Charles-de-Moine? Comment ça se passe en Montérégie, Dr Poirier?
Bon, mon Thierry, écoutez, les gens sont fatigués. On espère quand même avoir un automne et un hiver pas trop pire, mais c'est certain que ça reste occupé. Hein. On a des lits fermés aux soins intensifs, sur les étages, il manque d'infirmières, d'infirmiers, de préposés. Alors, les infirmiers et les infirmières sont fatigués aussi. Tout le monde est fatigué. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça prend des gens au combat, fait qu'on va y être.
OK. Juste dernière affaire, je vais vous laisser aller après là. Mais est-ce que le système de santé chez les anglophones fonctionne de la même façon que chez les francophones, parce qu'on dirait que ça va mieux chez eux. On dirait que, tu sais, par exemple, les horaires des infirmières, là, les 12 heures, c'est acquis chez les anglophones, puis au Québec, ben, on parle de temps supplémentaire imposé. Est-ce qu'il y a des leçons à aller chercher dans le système anglophone?
Ben, je pense qu'il y a une certaine historique, hein. Peut-être que chez les francophones, on a moins. Les syndicats sont un peu différents du système anglophone. Puis moi, je pense qu'ils ont, ben, je sais qu'ils ont des problèmes, mais je pense qu'ils règlent leurs problèmes entre eux autres au lieu de les étaler sur la place publique. Enfin, je pense qu'il y a, une certaine, peut-être, omerta aussi, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai des collègues qui ont des problèmes partout. Mais effectivement, il y a un système de fonctionnement qui est un peu différent, et je pense que c'est historique. Et on essaie tranquillement aussi de voir si on peut pas adopter certaines mesures que le système anglophone a adoptées depuis des années. Et on espère que si on peut imiter certains patterns, ben ça va aider.
Docteur Germain Poirier, chef du service des soins intensifs de l'hôpital Charles-de-Moine. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance.
Merci, M. Dutrisac. Bonne fin de journée.